Santé avec Sunwa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lorsque l'on aborde la question de l'autisme, il faut expliquer, décrire pour comprendre le caractère à la fois complexe et singulier de ces troubles du neurodéveloppement. Expliquer une réalité plurielle que l'on regroupe communément sous trois lettres, TSA, initiale de l'expression trouble du spectre de l'autisme. Décrire comment ces troubles peuvent redéfinir le lien établi avec les autres, les modes de communication, certains comportements, la difficulté à accepter le changement, par exemple la répétition de certains actes ou de certaines paroles, des perceptions sensorielles exacerbées, comprendre surtout que ces signes sont loin d'être systématiques, que d'une personne à l'autre, les besoins d'accompagnement et de prise en charge changent et doivent être adaptés afin de favoriser l'apprentissage et l'insertion des enfants, puisque des jeunes autistes, étant donné que ces troubles sont présents le plus souvent dès les premières années de la vie. Manifestation précoce donc, même si du côté du diagnostic, il faut parfois beaucoup de temps avant de mettre un nom sur cette différence reconnue comme handicap en France depuis 1996. Prise en charge et accompagnement, deux questions essentielles qui reviennent régulièrement dans l'actualité face au manque de structures, de moyens qui permettraient d'améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi de leur famille, à la maison, à l'école et plus tard au travail. Expliquer la diversité des réalités de l'autisme, c'est donc ce que nous allons essayer de faire au cours de cette émission en votre compagnie. Docteur Christophe Récassens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et responsable de l'unité d'évaluation des troubles du spectre de l'autisme à l'hôpital de Créteil en région parisienne et vous exercez également, docteur, en institut médico-éducatif. Votre témoignage dans Priorité Santé, Mathieu Beaulieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autiste Asperger, auteur du livre Votre autobiographie, c'est l'histoire d'un Asperger. La neurodiversité peut être une chance, à nous d'en faire une force, aux éditions MB, donc un livre que vous avez auto-édité. Nous partirons au Sénégal pour donner tout à l'heure la parole au docteur Awa Dieye, pédopsychiatre et chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital pour enfants de Damniadio. En fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Christophe Recassens, alors diagnostic, diversité, prise en charge, trois domaines essentiels qu'on va aborder au cours de cette émission. Mais pour bien poser les choses sur cette possibilité de mettre un nom sur des agissements, des comportements, parfois des symptômes qu'on ne comprend pas vraiment. Cette question essentielle et fondamentale du diagnostic, pourquoi ce diagnostic est-il parfois si compliqué lorsqu'on aborde justement cette question de l'autisme ?
Alors, il est compliqué pour plusieurs raisons. La première, comme vous l'avez dit, c'est la variété des présentations qui diffèrent d'un enfant à l'autre, qui peut être très conséquente dès la première année ou surtout au cours de la deuxième année. Et puis, dans d'autres formes, des troubles qui s'expriment plus tard ou qui sont plus... qui s'expriment de façon moins nette et qu'on peut éventuellement plus facilement confondre avec des difficultés plus communes. Donc la première difficulté, c'est, comme vous l'avez dit, la variété de la présentation. La deuxième, c'est lié aussi à l'évolution des critères qui conduisent au diagnostic, et ces critères ayant changé depuis les premières descriptions de l'autisme infantile, dans les années 40 par Kanner et Asperger, les critères ont évolué, et aujourd'hui, on a une définition des troubles du spectre de l'autisme qui est plus large que ce qu'elle était auparavant.
Ça veut dire qu'il faut cocher un certain nombre de cases où il y a quand même, il peut y avoir une impression d'ensemble qui ne nécessite pas d'avoir des symptômes, des signes vraiment très pointus.
Alors c'est exactement ça, il y a des formes assez caractéristiques, assez prototypiques, certains, qui sont assez facilement reconnues et pour lesquelles on est très consensuel et où la majorité des psychiatres seraient d'accord pour faire le diagnostic. Et puis il existe des formes plus discrètes ou plus atypiques qui sont plus complexes et qui nécessitent pas seulement une évaluation clinique ou une première observation, mais plusieurs évaluations. Et c'est sur cela qu'il faut insister. C'est sur le fait que la démarche diagnostique fait intervenir plusieurs professionnels. Il n'y a pas qu'un clinicien, un psychiatre ou psychologue, mais il faut bien souvent le concours d'un orthophoniste, d'un psychomotricien, voire aussi d'une évaluation pédiatrique, et en commençant par l'évaluation sensorielle pour repérer des troubles sensoriels, par exemple, comme des troubles de la vision ou de l'audition, qui pourraient entraîner une confusion, mais qui peuvent être aussi associés à des troubles du spectre de l'autisme. Donc, on peut dire que dans un certain nombre de cas, l'approche diagnostique peut sembler assez facile. Dans d'autres, elle suppose plusieurs évaluations du temps, de la coordination. Et donc, c'est un travail d'équipe.
Alors, il y a toujours des questions chez les parents. Quand on dit si le tout petit enfant présente ses troubles ou ses signes, est-ce qu'il va les garder toute sa vie? C'est certainement une question qu'on vous pose.
Oui, et là... C'est un autre problème qui se pose, c'est la question du pronostic, c'est-à-dire à partir des troubles que l'on constate à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, peut-on établir un pronostic sur le fait que l'enfant va parler, qu'il va développer une vie sociale plus ou moins normale, voire une vie professionnelle? Et là, les parents souvent ont effectivement très tôt des inquiétudes, et c'est à cela qu'il faut être très prudent pour répondre à ces questions, car on a peu de modèles prédictifs. Alors évidemment, on peut avoir une idée, hein, si un enfant de 5 ans n'a pas le langage, on peut se préoccuper de savoir s'il va l'acquérir, et plus il tarde à l'acquérir, plus on peut se demander s'il va l'acquérir. Mais en fait, on a suffisamment d'exemples d'évolution qu'on n'aurait pas imaginé pour insister sur la prudence qu'on doit avoir quand les parents nous posent des questions sur le devenir à long terme.
Alors c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement dans cette émission, notamment en médecine aujourd'hui, les bons côtés d'Internet mais aussi les inconvénients, avec comme travers pour certains d'arriver chez le médecin avec un diagnostic en tête préétabli. Justement, tout à l'heure je disais cocher les cases, sur le moteur de recherche on fait rentrer un certain nombre de symptômes ou de signes. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des parents qui viennent vous voir en disant « Voilà, mon enfant est autiste, dites-moi qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, etc. »
Oui, bien sûr qu'avec ces outils de connaissance, les familles se documentent, et elles ont bien raison d'aller rechercher des informations pour essayer de comprendre ce qui se passe pour leur enfant. Et cela les alerte, et je pense que ça contribue à l'amélioration de la précocité du diagnostic.
C'est plutôt positif.
Ah, pour moi, c'est absolument positif. Maintenant, charge à nous, cliniciens, de prendre en compte ces éléments d'observation et d'essayer de les recontextualiser et de montrer à quel point, effectivement, leurs intuitions sont justes ou, au contraire, méritent d'être regardées d'un peu plus près. Et je ferai une différence entre cette sensibilisation des familles au sujet des enfants les plus jeunes et la situation de jeunes adultes qui, eux, vont remplir des auto-questionnaires et arrivent avec le sentiment qu'ils sont autistes ou Asperger, et pour lesquels il leur semble difficile parfois de changer d'avis quand l'avis du clinicien est différent.
Et en ce qui concerne les chiffres, la réalité au niveau d'un pays, d'une région, en France, est-ce qu'on a justement des indications chiffrées ou c'est quelque chose qui n'est pas vraiment établi d'un point de vue de l'épidémiologie ?
Alors, il y en a, mais là encore, comme les chiffres ont énormément évolué depuis les années 40, 60, 80, avec l'évolution des critères, avec la plus grande sensibilisation, on va donner des fourchettes de chiffres. On était parti, pendant mes études, on parlait de 4 enfants pour 10 000. Aujourd'hui, on parle d'un enfant sur 160.
Ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus. Ça veut dire qu'on dépiste différemment.
Eh ben, c'est une vraie question.
À vrai on ne sait
dire,
pas.
Parce que justement, comme les critères ont évolué, comme le dépistage se fait mieux, le diagnostic se fait mieux, il est normal qu'on ait une augmentation de l'incidence. Mais on peut quand même se poser la question, quand on voit la multiplication, on peut s'interroger, et d'ailleurs, certains s'interrogent et continuent de faire des études pour rechercher si des facteurs d'environnement et des changements dans les facteurs d'environnement n'ont pas contribué aussi à une augmentation réelle de l'incidence. Donc, vous voyez, c'est un vrai problème, parce qu'il y a une augmentation, on va dire, artefactuelle, qui est liée à l'évolution des critères et à la plus grande sensibilisation, et il y a peut-être aussi une évolution réelle, mais ça, c'est plus difficile à mesurer.
Alors, justement, sur ces explications, est-ce que beaucoup de parents sont à la recherche de cause, de dire pourquoi mon enfant est différent, à la limite qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit comme ça? On se souvient qu'il y a quelques dizaines d'années le rôle de la mère était particulièrement pointé avec tout un lot de culpabilité du côté des mamans qui soi-disant n'auraient pas bien interagi avec le bébé dans les premiers échanges, voire même durant la grossesse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à tout ça?
Eh ben, on en est dans une phase de recherche, il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Il y a donc très légitimement de la part des parents une interrogation sur l'origine des troubles qui ne se demanderait pas d'où viennent les difficultés de leur enfant quand elles sont aussi conséquentes. Et c'est important de dire qu'avec le temps, via les parents et les associations de parents eux-mêmes, puis peu à peu via des cliniciens qui ne pouvaient pas souscrire à cette idée que les interactions précoces étaient responsables des troubles du développement de l'enfant, on met en avant le fait que d'autres facteurs devaient être recherchés. Alors aujourd'hui, on a déjà certains éléments de réponse, mais on n'a pas de réponse claire à toutes les situations.
Mathieu Beaulieu, on vous donne la parole. Dans votre cas, vous l'écrivez dans ce livre qui regorge de précisions, d'anecdotes. C'est vraiment très, très pointu. On apprend tout de votre vie. Vous décrivez ce parcours, votre réalité. Et vous, c'est à 32 ans, hein, on va dire donc tard, qu'un nom a été mis sur votre différence. Pourquoi autant de temps ?
Ben, c'est une bonne question. Je pense que, comme beaucoup de gens qui reçoivent un diagnostic tardif aujourd'hui, je fais partie de la génération où on n'en parlait pas encore suffisamment, je pense. Aujourd'hui, vraiment, les parents qui ont des enfants ont suffisamment de ressources. On a l'internet, on communique vraiment beaucoup plus et les équipes pédagogiques sont vraiment sensibilisées à cela. À mon époque, c'était pas aussi populaire, si je peux employer ce mot, et donc j'arrive à un diagnostic de 32 ans tout simplement parce que j'ai été confronté à des difficultés tout au long de ma scolarité, de mon enfance, et le monde professionnel n'a fait que appliquer le dernier coup de marteau et m'a poussé dans mes retranchements et donc vers le diagnostic.
Et c'est votre épouse qui prononce le mot, la première. Ensuite, il faudra encore attendre un an et demi pour la confirmation. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Mathieu Beaulieu, d'avoir justement la connaissance précise du nom de votre trouble, hein, donc Asperger ?
Ben, ça change énormément de choses. Déjà, ça m'a permis de reprendre un peu confiance en moi parce que vivre 32 ans avec des difficultés qu'on ne comprend pas, des émotions qu'on ne comprend pas, sur le plan santé, j'ai énormément encaissé. J'ai de gros problèmes. Le stress, les angoisses me déclenchent vraiment des difficultés sur le plan physique.
Sur le plan digestif, hein, vous n'en faites pas justement secret. Mais c'est très important de dire aussi qu'on est tellement crispé, on est tellement, on va dire, mal dans sa peau, qu'à un moment donné, ben, on passe un temps absolument hallucinant aux toilettes, on a mal au ventre, on se vide, hein, c'est très concret, mais ça veut dire quelque chose, on en prend plein le ventre.
C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est souvent la question que je me pose parce que je suis souvent confronté à des gens qui me disent oui, mais moi j'ai travaillé avec des autistes, ils parlent pas, ils sont pas comme vous. Et les gens disent presque mais vous êtes pas autiste.
Bah vous êtes pas dans une case, c'est ça. Vous êtes pas dans la case qui correspond aux normes.
Oui, exactement. Et donc, effectivement, là, c'est la difficulté des critères diagnostiques qui fait que le syndrome d'Asperger n'existe plus depuis 2013. Et donc, on a été assimilé à l'autisme au sens large. Maintenant, moi, je me dis que j'arrive à parler, j'arrive à aller au travail. Mais par contre, tous ces efforts que je produis ont un impact sur ma santé et sur mon état général. Et donc, quelque part, d'un côté, j'arrive à le faire, mais de l'autre côté, mon corps souffre et subit.
Alors, le vocabulaire, ça a son importance. Vous préférez utiliser quelle expression à titre personnel ? Différence, maladie, syndrome ?
Non, alors, c'est pas une maladie. Je parle d'une différence invisible. Mmh. Et c'est la meilleure façon, je pense, de l'expliquer.
Et vous écrivez « Depuis tout petit, je suis très facilement perturbée, envahie par certaines émotions que je ne comprends pas toujours », pour bien faire comprendre justement aux auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi ces différences ? Ça se manifestait comment ? C'était quelle difficulté au quotidien, par exemple à l'école, aussi avec les amis, peut-être moins d'amis, au travail, dans les relations professionnelles ? Ça veut dire quoi être Asperger quand on va à l'école et quand on travaille ? Dans votre cas, bien sûr.
Oui, dans mon cas, parce qu'on peut pas généraliser. Bah dans mon cas, c'est beaucoup de d'errance en fait. Enfin, moi, dans la cour de récréation, j'avais pas de groupe d'amis attitrés. Je naviguais à droite, à gauche. J'étais souvent seul ou je me faisais piquer mes billes ou mes pogs.
Parce que les autres enfants repéraient une différence ?
Oui, je pense que les autres enfants voyaient qu'il y avait quelque chose et pour certains individus, j'étais un peu une proie facile et donc il m'est arrivé d'avoir quelques soucis avec des individus qui
Mais
s'en prenaient à moi.
comment ça s'exprime cette vulnérabilité? Est-ce que vous avez réussi justement à le décrire? C'est quoi? C'est faire un peu plus le dos rond? C'est avoir un regard fuyant? C'est ne pas la ramener à la limite quand on vous agresse, hein? C'est vrai que quand on est petit, à 10 ans à l'école, il y en a qui se gênent pas pour venir vous embêter. Vous répondez moins aux agressions, aux provocations?
Oui, ça c'est vrai que je suis un faux calme et donc quand on m'agressait lorsque j'étais enfant ou même aujourd'hui, hein, si on m'agresse verbalement ou quoi, je vais pas réagir tout de suite parce que je vais être complètement tétanisé, je vais être pétrifié et je vais pas savoir comment faire face. Alors par contre, mon corps, lui, va réagir parce que je vais me mettre à trembler de partout, à avoir parfois des étourdissements, mais derrière, je vais rien verbaliser et donc il y a certaines personnes qui vont continuer et puis et voilà, donc c'est ça qui est compliqué.
Et vous vous décrivez comme quelqu'un qui peut donc d'un certain côté être sur la réserve, mais par contre, quand vous investissez dans une chose, vous y allez à fond, presque sans limite, avec l'épuisement à la clé.
Ouais, c'est la difficulté, et ça c'est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont ce syndrome, c'est la capacité à s'investir dans des centres d'intérêt spécifiques. Et donc c'est vraiment un point fort, c'est vraiment une belle qualité que de pouvoir s'investir et s'enrichir et se cultiver sur des sujets qui nous passionnent et qui nous intéressent. Là où il faut faire attention, c'est que, ben, comme vous l'avez dit, si je m'investis trop, je finis par oublier mon corps, oublier que mon corps a des besoins, et c'est l'effondrement physique à la clé, comme ça a pu m'arriver. Je l'explique dans le livre, ça m'est arrivé à plusieurs reprises depuis mon enfance, et même encore à l'âge adulte, ça m'arrive. Il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça de rester couché pendant 3 jours. A pu pouvoir me lever parce que j'étais complètement épuisé à la suite d'un investissement dans une activité.
Docteur Christophe Récassens, on comprend bien que sous ce terme de TSA, il y a vraiment des choses très très différentes. Aussi une possibilité tout à fait différente d'intégration, difficulté de suivre des chemins classiques ou non. Hein, dans le cadre de Mathieu Beaulieu, il y a eu des études, il y a eu un métier, il y a eu un mariage, à l'école, les liens sociaux, le travail. Est-ce que ça veut dire que certaines formes d'autisme ne nécessitent pas forcément une prise en charge médicale?
Oui, ça peut vouloir dire cela. Il n'empêche que Mathieu dit qu'il a souffert. Et que peut-être cette souffrance, elle aurait quand même pu être apaisée, soulagée, s'il avait. Alors, lui dit que l'étape diagnostique, hein, c'est-à-dire le fait de mettre un nom, de savoir qu'est-ce qui était la cause de toutes ces souffrances, a été une étape importante. Donc déjà savoir que ce qui nous arrive, c'est pas quelque chose comme ça qui est inconnu ou que les cliniciens ne peuvent pas donner une représentation de ce que c'est.
Mathieu Beaulieu, est-ce que vos parents, quand vous étiez par exemple adolescent, ont consulté par exemple un psychologue pour rechercher une cause à tout cela?
Non, 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 mes parents n'étaient pas très orientés vers les psychologues à l'époque, comme beaucoup de cette génération d'ailleurs, qui pensaient que bah, aller voir un psychologue, c'était peut-être une faiblesse ou que c'était réservé aux personnes qui étaient vraiment en très grande difficulté. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pareil. Je trouve que les personnes qui vont voir des psychologues sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant et on en parle beaucoup plus facilement dans la société en général.
Ça veut dire que lever des tabous, ça sert aussi. On voit aussi que dans certains cas, ça peut être un psychologue, mais aussi pour des cas plus lourds, on va dire, il y a une prise en charge multidisciplinaire qui est nécessaire. Ça pose à chaque fois la question des moyens et aussi, là, on l'entend bien avec Mathieu Beaulieu, la question de la disponibilité de l'entourage. Docteur.
Oui, véritablement, absolument. Alors Mathieu souligne le fait que les gens sont plus sensibilisés, qu'on va plus facilement voir le psychologue ou le psychiatre. Là encore, il faut que le psychologue ou le psychiatre puisse identifier les troubles dont il s'agit et ne se contente pas de dire oh, ben, il est juste anxieux, hein, comme c'est le cas d'un certain nombre d'enfants que j'ai vus où on dit ben, ils sont anxieux, anxieux. Oui, c'est vrai, ils sont anxieux dans les relations sociales, ils sont anxieux quand les choses ne se passent pas comme prévu, ils sont anxieux quand l'environnement sensoriel est trop stimulant et donc ils vivent de véritables souffrances. Le tout, c'est de pouvoir les relier à un moment à un trouble plus complexe qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme et qu'on apporte à ce moment-là une aide vraiment adaptée.
Mais attention, un enfant timide n'est pas forcément un enfant autiste. Il faut faire attention
Exactement.
À ce genre de dérive
Absolument,
aussi.
tout à fait.
Docteur Christophe Récassens, Mathieu Beaulieu, vous restez avec nous. On va reprendre notre échange hein, juste après Quincy Jones avec I Know Corrida. Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous continuons de parler des troubles du spectre autistique avec nos invités, Dr Christophe Récassin, psychiatre, et Mathieu Beaulieu, auteur du livre « C'est l'histoire d'un Asperger ». Mathieu Beaulieu, est-ce que dans votre cas, votre différence, vous l'avez dit tout à l'heure, vos parents n'avaient pas forcément consulté, mais est-ce qu'ils s'interrogeaient par rapport à votre sensibilité extrême, par rapport à votre différence? Est-ce qu'on en parlait à la maison ?
Non, c'est vrai qu'on n'en parlait pas. Alors il y a peut-être un facteur qui rentre en ligne de compte, c'est que je suspecte ma mère d'avoir le même fonctionnement que moi. Et donc déjà, ça signifie qu'elle-même ne pouvait pas forcément s'en inquiéter, vu qu'elle est un peu pareille que moi. Mais sinon, non, on n'en parlait pas. Et pour eux, j'étais comme ça. Voilà, je pouvais passer des heures sur une activité, ou même quand j'étais enfant, je pouvais passer des heures à jouer avec mes jouets sans rien dire. Je parlais pas beaucoup, et ça ne les interpellait pas. Eux, ils disaient bon, bah voilà, c'est qu'il est comme ça, et puis c'est tout, quoi.
Mathieu Beaulieu, vous avez donc écrit ce livre. Est-ce qu'il vous a servi en quelque sorte un petit peu de thérapie? Par exemple, vous expliquez comment, quand l'une de vos amoureuses vous délaisse, ça vous plonge dans une dépression tellement intense, une détresse tellement intense. Est-ce que vous avez le sentiment que ces sentiments, ce chagrin, ont été exacerbés justement parce que vous désignez comme votre différence?
Alors c'est sûr que ça m'a aidé, parce que ce que j'ai constaté, c'est que coucher sur le papier son vécu, une fois que la page elle est écrite et qu'on la tourne, ça permet vraiment de se tourner vers l'avenir. En fait, je pense que ce livre, c'est aussi quelque part le deuil de toutes ces premières années, de toutes ces difficultés que j'ai pu avoir, et c'est la façon de me dire, bah à partir de maintenant, on va repartir sur une meilleure base, et surtout en accord avec mon fonctionnement et en accord avec moi-même, parce que se forcer à faire des choses qui ne nous correspondent pas, c'est très compliqué.
Est-ce que ça veut dire que depuis que vous avez eu le diagnostic, vous êtes aidé, vous êtes suivi, vous êtes pris en charge ?
Oui, alors la première personne qui m'aide, c'est ma femme, parce qu'elle est là au quotidien, et elle a vraiment une approche très psychologue. C'est elle qui m'a appris à comprendre mon état émotionnel, etc., puisque elle me pousse à la réflexion sur mes attitudes et mes comportements. Et après, oui, j'ai toujours un suivi, et je pense que c'est nécessaire d'en avoir un pour faire un bilan, ne serait-ce qu'une fois par mois, pour voir un petit peu où on en est.
Avec quel praticien ?
Avec un psychiatre.
Avec un psychiatre. Et vous sentez que ça vous aide vraiment ?
Je n'ai pas toujours l'impression que ce soit nécessaire, mais je pense que c'est quand même important de faire des points, parce que je suis à 3 ans après le diagnostic, et j'ai encore des choses à apprendre sur moi-même. Là, notamment par rapport au travail, je viens de prendre conscience que je ne pouvais plus travailler à plein temps et qu'il faut que je passe en temps partiel. Et cette décision, elle a été extrêmement violente pour moi à accepter. Parce que je suis encore conditionné dans ce moule de la normalité où il faut travailler à 100%, etc. Et donc, quelque part, de m'avouer que je ne peux plus suivre la cadence à 100% et qu'il faut que je passe en temps partiel, ça a été très compliqué pour moi à accepter. Et donc, je pense que c'est pour ça que le suivi est utile après le diagnostic.
Il vous aide à vous écouter davantage?
Oui, oui.
Docteur Christophe Récassin, la compréhension du ressenti pour l'extérieur, Mathieu Beaulieu a utilisé l'expression du moule de la normalité pour les gens dits normaux, qui le sont parfois pas du tout. Pourquoi, par exemple, dans le cas de Mathieu Beaulieu, il le décrit dans son livre, participer à des rassemblements, des réunions de formation par exemple, ça provoque une fatigue aussi intense? Est-ce qu'on sait ce qui, sur le plan physique, épuise, ce qui, sur le plan physique, fragilise, indispose plus généralement?
Alors on commence à en avoir une idée grâce à la multiplication des témoignages des autistes, et celui de Mathieu en est un parmi d'autres qui a toute son importance. Alors je crois qu'ils décrivent tous assez bien un premier niveau, qui est le niveau sensoriel, donc l'expérience sensorielle d'être dans des environnements bruyants où il y a de l'agitation.
Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'enfants autistes qui se bouchent les oreilles dès qu'il y a un petit peu de brouhaha. C'est vraiment indisposant.
Ah, c'est plus qu'indisposant. Justement, nous, on a tendance à penser, ah bah oui, évidemment, quand il y a beaucoup de bruit, c'est gênant. Non, je crois qu'il faut qu'on entende bien qu'ils disent c'est pas gênant, c'est douloureux.
C'est douloureux.
C'est une douleur. Brigitte Harrison parle des orages sensoriels. Plusieurs autistes, et dont Mathieu d'ailleurs, dans certaines vidéos, je l'ai vu, en parlent, ils disent qu'ils font l'effort de tenir, mais au prix...
C'est comme si on avait un casque audio à fond dans les oreilles.
C'est ça.
Une torture auditive.
Ça va presque plus loin que ça. Prenons l'exemple de Temple Grandin, elle dit « Quand je rentre dans un restaurant et que je m'assieds pour parler à quelqu'un, malheureusement, mon attention ne peut pas se focaliser sur la personne avec laquelle je suis en train d'échanger et je ne peux pas filtrer les bruits des autres conversations, c'est-à-dire je ne peux pas régler ma sensibilité sur mon interlocuteur, donc j'entends toutes les conversations de la même façon. Donc c'est un travail considérable que de se concentrer dans un dialogue avec une personne. Et donc cette surcharge sensorielle, elle conduit à un épuisement, une fatigue des ressources qui limite leurs possibilités. Et Mathieu dit à la fois qu'il a une capacité de se concentrer dans son travail considérable, mais qu'en même temps, les perturbations liées à la vie sociale normale du travail sont une source d'épuisement. Donc peut-être parfois, il faut réduire le temps de travail, d'autres fois, il faut réfléchir à des formes d'aménagement du cadre de travail pour que, on va dire, la normotypie de l'open space, par exemple, soit complètement revue et reconsidérée pour des professionnels et qu'il y ait des ajustements de poste pour les personnes qui ont des sensibilités particulières.
Compétents et vulnérables.
Absolument.
Mathieu Beaulieu, dernière question. Écrire ce livre, certainement quelque chose de thérapeutique pour vous. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans votre vie d'avoir mis tout ça sur à peu près 300 pages? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et peut-être aussi, j'imagine, pour votre entourage qui a pu lire tout ça, qui a pu vous voir complètement sous un autre œil?
Oui, ça a fait un bien fou à beaucoup de gens dans mon entourage, puisque les gens savaient que j'étais différent, donc ça leur a permis de comprendre l'origine de cette différence. Et je trouve que c'est toujours bien d'en parler, parce que ça permet aussi, le livre au sens large, il permet aussi aux gens de se questionner sur eux-mêmes ou sur leurs proches, et je trouve que c'est déjà bien d'être autocritique envers soi ou de regarder un petit peu dans les comportements de ses proches, se dire « Ah bah tiens, lui, il aurait peut-être... » C'est toujours bien de se poser des questions, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec les parents qui font des recherches sur Internet. Il faut se poser des questions sur nous, sur les gens qui nous entourent, et parce que c'est comme ça que l'on avance. Et le livre aujourd'hui, je le visualise, juste pour conclure, je le visualise comme un outil qui va m'amener certainement vers d'autres choses. Et actuellement, je fais partie d'une association qui s'appelle le Collectif Atypique, qui est en plein essor. C'est une association de pères aidants, donc on est tous bénévoles. On a plus de 14 000 abonnés sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, j'essaie de mettre à contribution mon expérience, mon vécu pour aider les gens qui traversent les mêmes choses que j'ai pu traverser et apporter une écoute bienveillante, sans jugement et d'éventuelles solutions s'il le faut.
Travailler en réseau. Merci beaucoup, Mathieu Beaulieu, pour votre témoignage. Docteur Christophe Récassin, cette question de l'intégration, permettre aux enfants de partager la vie des autres. En dehors des structures spécialisées, bien sûr, il y a les maisons justement où les enfants sont accueillis, mais aussi dans toutes les écoles de la République. Et d'ailleurs, on peut avoir comme ça des enfants dans des classes, un, deux, avec une assistance particulière. Mais ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur l'acceptation, la stigmatisation, parce que tout à l'heure, Mathieu Beaulieu le disait, il y a cette vulnérabilité, cette sensibilité, on est parfois à fleur de peau.
Complètement. La socialisation n'est pas une chose qui se fait toute seule à l'école. Alors chez la plupart des enfants, elle se fait comme cela, naturellement. Ils jouent, ils se rencontrent, ils ont des interactions plus ou moins souples, plus ou moins agréables. Mais c'est l'école de la vie. Non, pour les enfants qui présentent des particularités de développement, pas seulement les autistes, les enfants avec des troubles attentionnels, avec des troubles praxiques, qui peuvent pas se mêler aussi facilement au jeu des autres. Eh bien, dès qu'ils ont une particularité, ils peuvent faire l'objet, comme ça, d'une stigmatisation, de harcèlement. Et effectivement, beaucoup, beaucoup de personnes avec des troubles du spectre de l'autisme ou des syndromes d'Asperger ont décrit des enfances scolaires épouvantables.
Les choses évoluent sur ce plan, ça s'améliore, on va dire?
Alors, j'aimerais pouvoir le dire. Je ne suis pas sûr que les enfants dans les cours d'école le confirmeraient. En revanche, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on sait que de mettre des professionnels et d'inclure peu à peu des dispositifs comme les CESAD avec des éducateurs et des professionnels au sein des écoles participera probablement à une amélioration de cela. Et ça n'aura pas d'intérêt seulement pour les autistes, mais pour tout le monde.
Alors, on va partir pour le Sénégal. On va donner la parole aux auditeurs qui ont souhaité témoigner dans cette émission. Et docteur, vous restez bien sûr avec nous, bien évidemment. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez.
RFI à Dakar, 92 FM.
On vous retrouve, docteur Awadiaye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes pédopsychiatre, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital pour enfants de Diamniadio au Sénégal donc, et docteur, on pointe depuis le début de cette émission parfois les difficultés pour établir un diagnostic, une prise en charge complexe, on va dire y compris dans des systèmes sanitaires privilégiés comme le nôtre en France. Quelle est la situation aujourd'hui dans un pays comme le Sénégal? Première chose, est-ce que la population connaît ce terme d'autisme?
Oui, Caroline. Dernièrement, on va dire ces 10 dernières années, on voit des parents arriver en consultation en nous posant la question « Est-ce que mon enfant est autiste ?» Donc, je pense que depuis l'avènement de Google, Internet ou autre, les parents ont appris à aller sur des sites, à comparer, voir des vidéos, comparer leurs enfants à ces enfants-là, lire un peu sur l'autisme et se poser des questions, puis arriver vers nous pour avoir un diagnostic. Mais on va dire que voilà, c'est plus la population urbaine que la population rurale qui est encore à certaines croyances religieuses ou mystiques qui expliqueraient la pathologie de l'enfant. On est encore énormément confronté à ce type de croyances quand même.
Ça veut dire que dans les zones plus reculées, on va davantage voir le tradit. Quand l'enfant présente un petit retard ou des comportements différents, on va peut-être essayer de travailler sur l'esprit, sur la mystique, et pas sur un accompagnement au niveau de son neurodéveloppement.
Effectivement. Malheureusement, dans les zones rurales, ils n'ont pas souvent accès à Internet, où les populations ne sont pas, on va dire, éduqués, ils n'ont pas un certain niveau d'éducation qui leur permet d'avoir le réflexe d'aller consulter le médecin ou de connaître qu'il y a des spécialités, notamment la pédopsychiatrie. Ils vont se tourner plus vers les tradiciens qui aussi ont une explication. J'ai fait une étude là-dessus qui ont une explication logique entre guillemets à l'autisme, qui peuvent décrire la même symptomatologie que nous on décrit sur le plan médical. Et de ce fait, voilà. Les parents, ils comprennent les parents, ils ont des, entre guillemets, des décoctions, des herpes qui peuvent entraîner des sédations chez l'enfant, qui peuvent le calmer. Et donc, souvent, eux, ils vont directement chez ces personnes. Heureusement, nous, on essaie de communiquer, de faire des campagnes au niveau rural, de les sensibiliser, de les orienter vers nous. Mais il faut savoir que, pour le moment, Dakar, le Sénégal, il n'y a que Dakar qui a des pédopsychiatres et nous sommes actuellement que deux. Pour une population de 16 millions d'habitants, vous voyez que ce n'est pas évident.
On comprend que ce n'est pas du tout évident. On va en reparler en deuxième partie justement avec vous sur ce besoin essentiel en ressources humaines. Docteur Dieye, on va donner aussi la parole à un père, un papa. On va faire tout de suite en retrouvant à Ouagadougou. Benjamin, bonjour Benjamin.
Bonjour Pauline.
Alors Benjamin, votre fille a 9 ans, elle est autiste. Expliquez-nous dans quelles circonstances, avec votre épouse, vous avez commencé à vous poser des questions sur elle.
Ok, comme on promet Thomas à 5 ans, la grossesse s'est bien déroulée, jusqu'à l'accouchement, par césarienne. Donc vous savez, les naissances en Afrique ici, c'est toujours un événement de grande joie dans la famille. J'avais la patrie bondée parce que j'étais un homme. Donc, tout le monde était content. Mais au cours de la croissance de l'enfant vers 17 mois, on s'est rendu compte que l'enfant ne se passait pas. On a commencé à se poser la question, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais on s'est dit peut-être que c'est dû à un retard. Mais avec le temps, on va voir si ça va évoluer ou pas. Donc, si on doit aller voir un spécialiste.
Benjamin, vous voyez quoi comme différence chez votre petite fille, comme signe de différence?
Bon, elle ne s'asseyait pas.
Ouais.
Mais avec le temps, c'est vrai qu'elle a appris à s'asseoir.
Oui.
Bon, et on s'est dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, elle est restée à terre pendant 24 mois avant de commencer à marcher.
Oui.
Mais toujours est-il qu'on se pose des questions, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Mais ce qui nous a quand même un peu étudié un peu, on s'est rendu compte que, bon, c'est ce qu'on appelle là, les premiers mots ne venaient pas. Elle n'arrivait pas à parler.
D'accord.
À son âge, donc on s'est mis à poser la question partie de gauche à droite, pourquoi est-ce qu'un enfant à tel âge ne parlait pas? Bon, j'ai décidé quand même de mener mes propres recherches sur l'Internet. Donc, la première c'est la première fois que je me suis rendu compte, c'est que j'ai connu le mot autiste.
Donc là encore, c'est par Internet. Et finalement, votre petite fille, est-ce qu'elle a pu aller à l'école?
Voilà. Donc, maintenant, quand je l'ai amenée à la maternelle. Bon, j'ai expliqué tout. On appelle là, les responsables qui sont là-bas, ils ont dit après le problème, ils l'ont pris.
Oui.
Donc, tout en ayant l'espoir qu'elle va parler avec les camps, jusqu'à ce qu'elle fasse 2 ans là-bas, elle n'a pas parlé. Maintenant, arrivé à l'âge de l'amener maintenant à l'école primaire, la même question s'est revenue. Aussi l'amener, aussi la laisser, de toute façon, elle grandit. Donc, maintenant, j'ai été dans une école à Ouagadougou et j'ai rencontré les responsables de l'école. Je leur ai exposé les problèmes. Je dis, j'ai une fille. Donc, malgré son âge, elle n'arrive pas à tout la parler. Mais qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, le directeur m'a dit que bon, que je peux l'amener. C'est parce que dans leur formation, on leur a appris à prendre en charge ses enfants comme ça. Donc, si le charge, j'ai eu le courage maintenant de l'amener, bon, comme tous les autres enfants à l'école.
Et elle apprend, votre petite fille, parce que vous disiez au début, elle n'a pas acquis la parole. Est-ce que finalement, aujourd'hui, elle a 9 ans, est-ce qu'elle a bien des apprentissages quand elle va à l'école? Elle ne reste pas passive? Il y a des choses, on va dire, qu'elle enregistre. Et puis, est-ce qu'au niveau du langage, elle s'est un petit peu améliorée?
Le langage est amélioré et à peine. Mais il y a quand même une satisfaction quelque part. Parce que bon, si elle a besoin de quelque chose, elle nous demande.
Donc elle n'est pas dans le silence complet. Elle n'est pas recluse dans le silence.
Non. Elle n'est pas dans le silence complet. Elle n'est pas dans le silence complet.
J'ai une autre question à vous poser, Benjamin. Une question très simple. Est-ce qu'elle a l'air heureuse, votre fille? Et comment elle se comporte? Est-ce qu'elle sourit? Est-ce que des fois, je ne sais pas, elle a envie de danser? Est-ce que dans son coin, elle peut fredonner? Est-ce que finalement, elle ressemble à une petite fille heureuse et épanouie? Ou est-ce qu'elle est vraiment comme une petite fleur renfermée?
Oui, une petite fille heureuse. Elle aime chanter, elle aime danser, elle aime se faire belle.
Ah, ça c'est quand même important.
Oui. Quand elle part à l'église, parce que là-bas, elle vivait parce qu'elle est timide là-bas, avec ses camarades. Mais pourtant, quand elle revient à la maison, elle nous fait ressortir des chants qu'on ne s'y attendait pas. Elle ne chante pas avec les textes, mais avec les mélodies.
Donc, quand même, elle a envie de s'exprimer. C'est quelque chose que vous voyez. Est-ce que vous avez une question précise, Benjamin, à poser à notre invité à Dakar, au docteur Awad Diaye, qui est pédopsychiatre?
Ma question est vraiment que si elle peut nous donner des conseils, quand même permettre la solution pour aider notre fille. Vraiment, ça va nous aider.
Ah, c'est une question très, très, très large, hein, docteur Diaye. Comment aider cette petite fille? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que Benjamin, le papa, a déjà fait beaucoup en emmenant sa fille à l'école, en parlant à des enseignants qui étaient formés et qui l'acceptent. On voit à quel point tout cet entourage, c'est absolument essentiel pour les enfants.
Oui, effectivement. Donc, monsieur Benjamin, je ne sais pas si vous avez des pédopsychiatres à Bamako, mais ce serait bien de vous rapprocher d'un spécialiste.
C'est à Ouaga, c'est au Burkina.
Ah, excusez-moi, au Burkina. éventuellement, s'il y a un orthophoniste aussi, vous rapprochez de lui. Et comme ça, ils pourront aider votre fille davantage dans l'acquisition du langage et éventuellement un psychomotricien, si vous avez des spécialistes de cette envergure à Bamako, je pense. Vous pourrez peut-être vous rapprocher en plus de la scolarisation. Vous, je vous conseillerais à la maison, comme vous faites, de continuer à essayer de la faire parler, de beaucoup la stimuler, de ne pas la laisser seule dans son coin. S'il faut inviter d'autres enfants à la maison pour travailler à la sociabilisation en dehors de l'école, de lui organiser des activités, des sorties, vraiment d'être dans la stimulation, dans la communication avec elle, et aussi de lui apprendre à communiquer avec vous, de beaucoup l'observer, d'essayer de la comprendre et d'essayer d'aller vers elle, et de vous mettre à son niveau, c'est-à-dire d'essayer de communiquer avec elle, à comment elle communique avec son niveau de langage, d'essayer vraiment d'être dans la compréhension bienveillante. Les parents peuvent beaucoup aider l'enfant en le comprenant, en l'observant, en apprenant à connaître son enfant, à connaître sa différence, à l'accepter et à aller de l'avant avec lui.
Une attitude encourageante. Benjamin, j'ai 2 petites questions pour vous. Vous savez s'il y a justement des praticiens, des métiers spécialisés qui pourraient aider votre petite fille à Ouaga? Orthophoniste ou pédopsychiatre?
Jusqu'à présent, je n'ai aucune information sur...
Vous n'avez pas... Est-ce que vous en avez les moyens? Parce que ça coûte cher, c'est pas pris en charge, et ça, on le sait. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos ressources financières ou pas vraiment?
Bon, parce que moi, j'ai connu une dame qui avait les mêmes cas. Elle m'a dit, franchement, Benjamin, je ne te conseille pas parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour mes enfants et ça n'a rien donné.
Ça n'a rien donné. Par contre, une orthophoniste, ça pourrait être quelqu'un qui l'aide vraiment. Ça, c'est du concret, c'est des exercices de rééducation. Et d'ailleurs, elle peut vous donner des conseils que vous pourrez refaire avec elle à la maison. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'y aller toutes les semaines. Vous commencez par quelques séances et puis après, comme ça, vous répétez ça avec la maman ou vous-même, ou vous donnez des petites infos à l'instituteur. Tout le monde peut en profiter comme ça sans que ça vous coûte une fortune.
Oui. Ce que vous dites, là, c'est vrai. Même par rapport à son aide d'école, moi, franchement, je ne sais même pas comment le remercier parce qu'il a fourni beaucoup d'efforts en ce qui concerne son amélioration.
On comprend bien, c'est essentiel hein, quand on a des bons enseignants. Vous remercie beaucoup, Benjamin. Dernière question avec vous, docteur Dieye. Justement, sur les besoins en matière de santé mentale des enfants qui se posent au Sénégal, c'est vrai que... Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu sur ce point, qu'il y a vraiment des besoins à fournir aujourd'hui qui sont énormes?
Je dirais que oui, tantôt on est entendu durant le mois d'avril et après c'est le silence total jusqu'au mois d'avril prochain.
À cause de la journée mondiale de l'autisme qui était programmée le 2 avril. C'est pour ça qu'on vous a donné la parole aujourd'hui, docteur Awa Dieye. On vous souhaite une excellente journée au Sénégal. On arrive à la conclusion de notre émission. Il nous reste très peu de temps, docteur Christophe Recassens. Toujours la même question, journée mondiale du 2 avril, on a envie de dire et après?
Et après, eh bien...
Vous, je sais que vous continuez de travailler, mais il y a encore beaucoup à faire.
En tout cas, pour les professionnels, pour les familles, c'est très bien que tous les ans, on rappelle l'importance comme ça du travail qui est mené, des actions qui restent à mener, qu'on rappelle aux familles quel est leur rôle important, à la fois auprès de leur enfant, comme vient de le rappeler le docteur Dieye, hein, observer, être attentif à cet enfant, se former, se documenter, faire appel à toutes les ressources qui existent. Rappelons les centres ressources autisme dans toutes les régions et en Île-de-France, rappelons les plateformes Autisme Info Service et tous les moyens qui sont mis au service des familles pour qu'ils connaissent mieux le trouble et qu'ils s'orientent mieux dans le parcours très compliqué des soins pour ces enfants.
Merci pour toutes ces explications, docteur Christophe Recassens. Je rappelle que vous êtes psychiatre, responsable de l'unité d'évaluation des troubles du spectre de l'autisme à l'hôpital de Créteil. Bien manger en fonction de son état de santé et de ses habitudes, on retrouve tout de suite en ligne de Bamako Stéphane Besançon. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Stéphane, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète, précisément à quelques semaines du début du Ramadan, vos conseils pour celles et ceux qui s'apprêtent à suivre ce mois de jeûne, à l'observer. D'abord Stéphane, des informations lorsqu'on ne présente a priori aucun problème de santé.
Alors d'abord, il faut bien savoir que le Ramadan se déplace sur le calendrier d'une année sur l'autre. Et il faut bien tenir compte chaque année du mois où va se dérouler le Ramadan. C'est très important car ceci va conditionner la durée journalière du jeûne, mais aussi la température extérieure durant cette période de jeûne. Cette année, par exemple, le Ramadan va se dérouler durant les mois d'avril et mai. Cette information est vraiment importante parce que dans de nombreux pays, la durée quotidienne du jeûne sera longue et la température sera très élevée. Au Sahel, par exemple, les températures vont avoisiner les 45 degrés. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, le premier conseil est de s'assurer que l'on est en bonne santé et que l'on prend aucun risque à réaliser ce mois de jeûne. En cas de doute, il faut absolument un conseil individualisé qui doit être donné par un médecin quelques semaines avant le début du jeûne, du mois de Ramadan. Le médecin, il va prendre en compte du coup tous les paramètres et pourra conseiller si le jeûne est possible ou non. Si le jeûne est possible, le second conseil sera de bien adapter l'alimentation, mais aussi et surtout l'hydratation.
Essentiel, hein, cette hydratation, justement. Quel conseil pouvez-vous donner sur ce point précis lorsqu'on observe le jeûne?
Alors, comme on l'a dit juste avant, il va se dérouler cette année, au mois d'avril et mai, avec des journées qui vont être très longues et des températures très élevées. Ça veut dire que la planification de l'hydratation va être cruciale pour prendre aucun risque pour la santé. Ça veut dire qu'il va falloir s'assurer d'une hydratation adéquate. Et pour ça, on peut donner deux conseils simples. Le premier, c'est d'hydrater régulièrement toute la nuit jusqu'au lever du soleil pour emmagasiner le maximum d'hydratation et éviter le risque de déshydratation durant la journée de jeûne pour avoir vraiment aucun risque. Ensuite, il est important de rappeler qu'il faut boire de l'eau et d'éviter au maximum les boissons sucrées. L'idéal est de réaliser une hydratation avec uniquement de l'eau ou alors des boissons type tisane, mais sans ajout de sucre, ça c'est vraiment crucial.
Alors d'autres conseils cette fois pour adopter une bonne alimentation, Stéphane?
Alors, durant cette période, la journée alimentaire, elle est en fait composée de deux repas principaux. Il est important de bien différencier ces deux repas pour bien adapter. Il y a tout d'abord le premier repas de la journée qui est appelé Shaour, ou repas de l'aube, qui est pris juste avant le lever du soleil. Alors, ce premier repas est très important car il doit permettre d'accumuler l'énergie nécessaire pour que le corps puisse tenir toute la journée de jeûne. Il doit être pris le plus près possible du lever du soleil et doit être composé majoritairement de sucres complexes, que l'on appelle des glucides et que l'on retrouve dans des aliments comme le pain ou les céréales qui peuvent être par exemple des pâtes, du riz, du maïs ou encore du fognon. Après, il y a le deuxième repas de la journée qui est appelé l'iftar et qui est pris au moment de la rupture du jeûne. Contrairement à ce qui est fait très souvent en pratique, il faut éviter un repas trop riche en produits très sucrés comme les gâteaux, les bonbons, les boissons sucrées ou les fruits secs. Pour ce repas, il faut privilégier la consommation de céréales accompagnées de légumes avec un peu de viande ou de poisson. Il faudra privilégier les viandes maigres plutôt que les viandes grasses, comme le mouton. Et enfin, avec le plat principal, on peut prendre une soupe chaude qui pourrait être intéressante pour s'alimenter, mais aussi en même temps pour commencer à se réhydrater.
Et une question qui peut se poser pour certains, est-ce que cette période particulière de jeûne permet de perdre du poids ou peut conduire à une perte de poids?
Alors normalement, si le plan alimentaire est bien fait, on devrait aboutir à un maintien du poids ou une petite perte de poids. Mais malheureusement, en pratique, on observe bien souvent le contraire. Dans de nombreuses études scientifiques internationales qui ont été menées en Arabie Saoudite et dans de nombreux autres pays, elles ont démontré que 50% des personnes suivies pendant cette période de Ramadan enregistraient une prise de poids et qui était significative à la fin de la période de Ramadan. 4-5 kilos, donc ce n'est pas négligeable. Alors ce constat peut s'expliquer par la conjugaison de plusieurs choses. D'abord, dans de nombreux pays, l'alimentation du Ramadan est traditionnellement beaucoup plus grasse et sucrée que dans les autres périodes. Ensuite, il y a souvent une peur d'avoir très faim durant les heures de jeûne qui pousse les personnes à manger en plus grande quantité en espérant stocker pour les heures de jeûne. Et enfin, car c'est une période où l'on enregistre une baisse très importante de la pratique de l'activité physique, donc en corollaire, on peut avoir une prise de poids. En conclusion, on pourra dire qu'il faut une bonne planification de l'alimentation et de l'hydratation qui va permettre de vivre pleinement ce mois de jeûne, tant risque pour la santé, mais aussi sans enregistrer de prise de poids significative et d'être vraiment très très bien dans sa tête et dans son corps.
Merci beaucoup Stéphane Besançon et à très bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare, fabrique votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kalédek, Didier Bleu et Laurent Hérault à la réalisation. Demain, on va se retrouver pour parler des résurgences d'épidémies de maladie à virus Ebola en RDC et en Guinée. Où en est la riposte dans ces deux pays? Qu'est-ce qu'un réservoir viral? Comment s'organise la vaccination? On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sonoa Assurance IARD RDC qui assure vos biens, votre responsabilité et votre patrimoine financier. Retrouvez-nous à Kinshasa, immeuble Blue Waves Tower. Sonoa Assurance, notre métier, l'assurance.
Autour de la question. Caroline Lach-